Et maintenant, décryptage avec vous Marion Cassaneuf, bonsoir.
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
Décryptage. Marion Cassaneuf.
Les stations de sport d'hiver font le plein pour ces dernières semaines de l'hiver, mais avec le réchauffement climatique, le secteur du tourisme va devoir s'adapter. Pas qu'à cause du manque de neige en station, il y a aussi la montée des eaux qui menace des îles, des villes très visitées comme Venise. Également les canicules, les incendies à répétition qui pourraient pousser des touristes à fuir certaines destinations. Également certaines villes, certains endroits qui sont réputés comme surfréquentés, saturés. On parle parfois de surtourisme qui nuirait aux locaux et aux touristes eux-mêmes. Alors dans ce contexte, à quoi va ressembler le tourisme de demain? C'est le sujet de notre décryptage ce soir. Et avec moi en studio pour en parler, Rémi Knafou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite des universités en géographie Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste du tourisme. Et vous avez écrit notamment « Réinventer vraiment le tourisme, en finir avec les hypocrisies du tourisme durable ». C'est aux éditions du Faubourg. Je voudrais d'abord commencer cette émission avec cet extrait de reportage RFI.
La protection du climat est quelque chose d'essentiel. Je pense que mes petits-enfants ne connaîtront le ski que par les histoires que je leur raconterai. Et je me sens un peu coupable à cause de cela. Je trouve donc que c'est une bonne idée qu'ils essayent ici de changer de modèle et de moins abîmer la planète.
Je suis très sensible à la protection de l'environnement. Je fais donc attention aux endroits où je me rends. Je pense que la protection des glaciers est extrêmement importante et qu'il faut donc trouver pour le ski un modèle plus écologique.
Voilà des témoignages de skieurs dans une station autrichienne au micro de RFI. C'est dans une station dite durable, alimentée notamment par des énergies vertes. Rémi Knafou, depuis plusieurs années, on entend parler de ce concept de tourisme durable, voyager en polluant le moins possible. On voit que certains y sont sensibles. Est-ce que c'est un mode de tourisme en pleine croissance, en évolution? Il y a une vraie demande aujourd'hui?
Et disons qu'on en parle effectivement depuis longtemps, même très longtemps, puisque ça remonte à 1995. Et disons aussi qu'on en parle plus qu'on ne fait. Même si on commence à faire, parce que comme vous le rappelez, il y a des prises de conscience, des gens sont inquiets, comprennent qu'il va falloir changer un peu les pratiques. Mais entre la prise de conscience et le changement des pratiques, il y a encore un écart.
On parle notamment d'éco-anxiété, surtout chez les jeunes, par exemple, qui veulent éviter de prendre l'avion. Comment les professionnels du tourisme, eux, font pour répondre à ces demandes de tourisme plus vert aujourd'hui?
Alors, l'éco-anxiété, elle existe indiscutablement, mais quand on regarde des enquêtes qui sont faites chez les jeunes, on s'aperçoit que tout en étant tout à fait conscients de ce qu'ils vont être amenés à vivre en raison du réchauffement, ils prennent l'avion plus que leurs aînés, parce que ça fait partie de leur environnement. Quand on a les moyens, encore faut-il en avoir les moyens financiers, mais quand on a les moyens de le faire, la tentation est là. Et donc les professionnels du tourisme, ils sont partagés parce que certains ont très bien compris quel était l'enjeu. Enfin, d'ailleurs, tous, je crois, l'ont très bien compris. Mais il y a ceux qui en arrivent à modifier leurs propositions et puis ceux qui continuent à faire des propositions qui ne vont pas dans le bon sens, c'est-à-dire des voyages plus lointains, plus coûteux, plus coûteux en énergie fossile, plus émetteurs en gaz à effet de serre, etc.
Donc c'est faux aujourd'hui de dire qu'il y a un boom du tourisme durable. On en parle beaucoup. Mais ce n'est pas une industrie encore très porteuse?
Mais il y a des efforts qui sont faits dans tous les sens. Alors, les efforts sont faits pour essayer de modérer le recours aux énergies fossiles, en particulier à l'avion, pour privilégier des moyens de transport moins polluants, comme le train en particulier. Il y a des efforts qui sont faits aussi pour promouvoir des destinations moins lointaines, des séjours moins répétés, moins nombreux, mais plus longs. Enfin, tout ce qui va dans le bon sens. On loue aussi les vertus de la proximité. Enfin, tout ça existe, mais ça évolue lentement. Parce que le mouvement touristique est un mouvement qui, sauf problèmes géopolitiques brutaux, évolue lentement. Les adaptations, aussi bien des professionnels du tourisme que des touristes eux-mêmes, sont lentes globalement, si elles vont plutôt dans le bon sens.
Et quand on parle de tourisme durable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça suffit de dire, pour une agence de voyage, par exemple, on propose des séjours de tourisme vert parce qu'on a des hôtels, par exemple, qui utilisent de l'électricité éolienne? Qu'est-ce qui justifie de parler de tourisme durable? Est-ce qu'il y a aussi des écueils, des abus quand certains parlent de tourisme durable? Est-ce que pour certains cas, ce n'est pas justifié.
C'est très difficile de proposer un produit durable sur toute la chaîne du produit. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, proposer des destinations qui sont, quand on arrive, respectueuses de l'environnement. Mais si pour y arriver, il faut prendre un avion pendant 12 heures et puis ensuite un deuxième vol, etc., on voit bien qu'on n'y est pas. Donc c'est très difficile, de changer nos pratiques parce que c'est tout un environnement qui doit être modifié si le tourisme veut être compatible avec les impératifs qui nous attendent, en particulier en matière de gaz à effet de serre. Je rappellerai au passage que le tourisme contribue à environ 8% de l'émission des gaz à effet de serre. Et quand on dit le tourisme, c'est principalement le déplacement. Parce que c'est dans le tourisme, c'est le déplacement qui fait le gros, à la fois de consommation d'énergie fossile et d'émissions de gaz à effet de serre.
Mmh. En tout cas, il y a aussi la réalité du changement climatique. Qu'on soit ou non préoccupé par des vacances plus ou moins vertes, les destinations, elles changent. Certains pays sont menacés par des canicules à répétition, des incendies. On l'a vu en Grèce l'an dernier. Les îles de Corfou, l'île de Corfou ravagée par les flammes. Est-ce que pour cette raison, il y a déjà une tendance à la baisse dans ce pays, dans certains pays où il fait de plus en plus chaud, par exemple ?
Là, ce qu'on observe, c'est une évolution très lente aussi. Parce que c'est vrai, vous le rappelez à juste titre, l'été dernier a été très difficile dans toute la Méditerranée. Hein, la Grèce, les incendies, mais la Sicile aussi, par exemple, a eu des températures records, a eu aussi des incendies. Les systèmes électriques étaient à bout. Il y avait des éléments qui commençaient à fondre. À ce moment-là, la climatisation ne fonctionnait plus. Enfin bon, c'était des situations extrêmement tendues. Et malgré tout, l'offre touristique demeure ce qu'elle est. C'est-à-dire que le bassin méditerranéen a une offre touristique considérable. Et même si on va observer, probablement, on commence déjà à le faire, un déplacement des pratiques touristiques davantage vers le nord, il n'en demeure pas moins que ce qui va peser durablement sur les flux touristiques, c'est précisément les capacités d'accueil qui sont là, qui sont considérables en Méditerranée. Et ce n'est pas parce qu'il fera meilleur en Norvège que pour autant toute cette population va aller vers la Norvège, à la fois parce qu'il n'y a pas les capacités d'accueil et parce que les prix ne sont pas les mêmes non plus, c'est beaucoup plus cher. Donc on voit comment on joue à la fois la structure de l'offre géographique telle qu'elle est, plus les tarifs, les grandes destinations, là où on peut avoir des coûts plus compétitifs pour accueillir un plus grand nombre. C'est très difficile à gérer de ce point de vue.
Donc on renonce pas encore, les touristes ne renoncent pas encore à aller en Grèce parce qu'ils pensent qu'il va faire trop chaud cet été-là. C'est pas encore un vrai argument
Pour l'instant, je ne vois pas ça, d'autant plus que les touristes ont jusqu'à présent plutôt la mémoire courte. Par exemple, quand il y a des attentats qui surviennent, on s'aperçoit qu'un an après, le flux s'arrête effectivement pendant quelques mois. Et puis après, les habitudes reviennent, on oublie, etc. En matière du climat, je pense que l'oubli sera moins net parce qu'au fil des années, les gens ont très bien compris que le climat était en train de véritablement changer. On le vit à différents moments de la saison. Et donc, il y aura une évolution, mais ce sera une évolution progressive.
Et quelle destination aujourd'hui peu prisée pourrait l'être demain en raison du réchauffement ? Vous parlez de certains pays comme la Norvège qui ont des capacités d'accueil peut-être pas encore suffisantes pour accueillir beaucoup, beaucoup de touristes. Est-ce que demain ce sera possible ? D'autres pays sont en train de développer des infrastructures comme ça ?
Mais déjà, la France elle-même a des capacités d'accueil sur tout son territoire. Il suffit de voir quel est le succès de la destination Bretagne à l'heure actuelle. Et on peut penser que les températures augmentant vers le nord, on voit que c'est le climat qui change également vers le nord, les modifications qui sont sensibles. Je pense que des destinations qui ne sont pas encore extrêmement courues dans la moitié nord de la France le seront bien davantage. Il y aura d'autres possibilités. L'Europe a un parc de lits touristiques qui est très important et qui va évoluer aussi avec le temps. Donc tout ça va demander sur quelques années, voire quelques décennies, des réajustements progressifs. Mais je ne crois pas brusquement au fait que les populations vont déserter la Méditerranée, sauf succession de nouveaux de nouvelles canicules et de phénomènes cataclysmiques.
Et est-ce qu'il va aussi y avoir, par exemple, de plus en plus de professionnels qui vont essayer de développer le hors-saison aussi, qui vont trouver d'autres stratégies pour accueillir des touristes ?
Alors, c'est effectivement l'une des réponses possibles d'inciter les gens à ne plus partir uniquement pendant l'été, en hors-saison, d'étaler davantage les fréquentations.
Est-ce que c'est déjà courant, ça ? Ça se fait ?
On s'y essaye, effectivement, ça se fait. Tout dépend, là encore, des conditions de départ des vacanciers, en particulier des Français. On sait que les entreprises, enfin certains types d'entreprises en particulier, ont toujours un rythme de fermeture pendant le cœur de l'été et que ça contraint beaucoup les gens qui n'ont pas beaucoup le choix. Donc là aussi, il faut que ça soit l'ensemble de la société qui s'adapte pour qu'il y ait une ouverture supérieure vers des vacances d'avant-saison ou de hors-saison ou d'après-saison. Là-dessus, tout est possible. D'ailleurs, il suffit de voir la différence, par exemple, entre les Alpes françaises et les Alpes alémaniques, côté Suisse, Bavière ou Autriche, pour voir à quel point, lorsque les stations françaises sont fermées en septembre, les stations étrangères du nord de la Calpin sont pleines. Donc là, c'est une question qui est principalement culturelle. Les Français n'ont pas tout à fait l'habitude d'aller en montagne en septembre ou en octobre, alors que dans l'Europe du nord, du nord-ouest, c'est une pratique assez courante.
Alors comment devraient faire les stations de ski françaises pour attirer plus de personnes hors saison alors ?
Alors ça, c'est
surtout
un problème
si elles sont
très difficile parce
l'hiver.
Que toutes les stations françaises n'ont pas les mêmes arguments pour attirer hors saison. Les stations hautes, les plus hautes, qui sont des stations de sport d'hiver, qui ont été créées pour la pratique du ski, sont à des altitudes en général au-delà de 1800, voire 2000 mètres, plus de 2000 mètres. Et ce sont des paysages qui sont pas toujours très attirants, parce que très austères. On est au-dessus de la forêt, on est dans l'alpage ou dans le rocher même déjà. Ce sont des paysages qui fonctionnent très bien en hiver, mais qui fonctionnent beaucoup moins bien en été. En revanche, les stations de basse ou moyenne montagne, avec un paysage plus amène, en particulier en été ou au printemps ou à l'automne, avec un habitat permanent, ont des capacités bien supérieures à attirer. Parce que les stations créées de toutes pièces en altitude, lorsque la saison est terminée, elles sont fermées, il n'y a plus guère de population permanente. Alors que quand on descend en altitude, il y a une population permanente et on peut à ce moment-là envisager de vivre à l'année dans ces stations-là. Encore faut-il que les professionnels du tourisme jouent le jeu, que les hôtels restent ouverts, que quand il y en a, les remontées mégaliques restent ouvertes, etc.
Et quand on voit que certains types de voyages touristiques sont très polluants, je pense par exemple à des croisières dans l'Arctique, est-ce que ce genre de voyage pourrait être interdit aussi à terme pour éviter de polluer ?
Personnellement, c'est ce que je souhaiterais, puisque dans mon livre sur Réinventer vraiment le tourisme, je fais la proposition de sanctuariser touristiquement le continent antarctique, pour tout un tas de raisons. Si on aime les paysages englacés, il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout de la Terre, on peut en voir dans l'hémisphère nord. Quand on se rend au pôle sud, on dépense des quantités invraisemblables de kérosène, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, et le tout sans aucune retombée positive, parce que on peut justifier dans certains cas de nouveaux développements touristiques quand il y a des retombées économiques pour une société d'accueil, mais le continent antarctique est inhabité, il n'y a pas de retombées, donc on a uniquement affaire à des entreprises marchandes qui, aussi bien d'ailleurs des bateaux, puisqu'il y a aussi maintenant des lignes aériennes entre le Cap, par exemple, il y a plusieurs, pendant l'été austral, entre le Cap et le continent antarctique, il y a plusieurs vols dans la semaine, des vols qui sont évidemment aller-retour, mais qui embarquent peu de passagers. Ce sont les avions gros porteurs, mais qui embarquent peu de passagers parce qu'il faut aussi embarquer le carburant pour l'aller et le retour. Donc on a là un phénomène qui va croissant. On a dépassé le cap des 100 000 touristes pendant l'été austral 2022-2023. Et si on n'y met pas le holà, effectivement, on va créer à nouveau des zones de pollution là où on n'en a aucun besoin.
Rémi Knafou, beaucoup de médias parlent aussi de surtourisme, le tourisme de masse. Dans une note sur le site de la Fondation Jean Jaurès, vous évoquez ce surtourisme, un terme qui pour vous ne se justifie pas toujours. Pourquoi ?
Il n'est pas toujours employé avec discernement parce que la difficulté pour pouvoir parler sérieusement de surtourisme, c'est de pouvoir dire à partir de combien de touristes il y en a trop. Et ce que j'ai observé, c'est que ceux qui disent qui parlent beaucoup de surtourisme, il faut toujours savoir au nom de quels intérêts ils le font et dans quel but. Or, en travaillant un peu la question, je me suis aperçu qu'une bonne partie de ceux qui parlaient de surtourisme étaient des entreprises qui avaient intérêt à affoler en quelque sorte les touristes en attirant leur attention sur le fait que dans certains endroits, il y en a trop pour pouvoir les faire venir ailleurs. Et précisément, c'est au nom de ce type d'argument qu'on va amener les touristes vers l'Antarctique ou vers des destinations lointaines, puisque à ce moment-là, il s'agit de vendre de la distinction, pas simplement une destination lointaine, mais se distinguer du gros de la troupe, se distinguer du tourisme dit de masse. Et donc, à partir de là, certains ont tout à fait intérêt à pouvoir parler de surtourisme qui sert de repoussoir. Alors, quand je dis cela, je ne sous-estime pas le fait que dans des lieux, il y a beaucoup de touristes, mais il est toujours très difficile de savoir à partir de quand il y en a trop et pourquoi on dit qu'il y en a trop.
Et est-ce que cet effet de tourisme de masse, de surfréquentation de certains lieux, par exemple la ville de Barcelone, d'Amsterdam, est-ce que ça pousse certains touristes à renoncer à se rendre dans certains lieux, ce genre de destination ?
Alors, ça en pousse certains à se renoncer, mais à renoncer à y aller. Mais la pratique montre que ça en attire encore tout de même davantage. Puisque ce qui compte beaucoup dans l'univers touristique, c'est d'en entendre parler et d'avoir l'idée d'y aller. Et donc, plus on en parle, même pour dire qu'il y a trop de monde, plus ça fait venir de gens. C'est ce côté paradoxal. Donc, c'est pas la principale manière de pouvoir gérer des flux lorsqu'on considère, souvent à juste titre, qu'il y a trop de monde dans certains endroits. Il y a des villes qui ont commencé, par exemple, à ne plus faire de promotion touristique en direction de certains marchés parce qu'elles trouvent qu'elles sont saturées.
Il y a même des taxes, Venise, qui commence à taxer les touristes. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus, des villes qui vont essayer de réguler comme ça le flux ?
Alors, pour Venise, malheureusement, la taxation des excursionnistes, c'est pas les touristes. Les touristes payent déjà les taxes de séjour. Ce qui va être proposé, c'est pendant quelques jours dans l'année, simplement en période de pointe, de taxer les excursionnistes, c'est-à-dire ceux qui ne dorment pas à Venise, mais qui viennent pour la journée, parce qu'on considère qu'ils sont trop nombreux. Et d'ailleurs, les excursionnistes, il n'y a pas qu'à Venise, personne ne les aime, parce qu'ils sont nombreux, ils viennent encombrer,
ils
salissent,
assez.
Ils dépensent pas assez, ils laissent des papiers sales, etc. Et donc, la taxe qui est proposée, c'est pas un outil de régulation, à proprement parler. C'est une manière de compenser les dépenses induites par la venue de ces touristes. Mais comme en plus, il n'y aura pas de vérification, que ce sera un contrôle aléatoire, on a très bien compris que c'était un coup de com' et ce n'est pas comme ça qu'on va réguler les flux à Venise. Pour ça, il faudrait que les Vénitiens aient le vrai désir de réduire le nombre des touristes à Venise, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Et comment on ferait pour réduire le flux ?
Alors, pour réduire le flux, il y a plusieurs manières de faire. La première, déjà, serait de réduire la croissance du nombre des lits touristiques. À l'heure actuelle, les Vénitiens continuent imperturbablement à transformer leurs appartements en location touristique temporaire, ce qui accroît le nombre des touristes et en même temps réduit les possibilités pour les Vénitiens eux-mêmes et leurs propres enfants à se loger. L'an dernier, on a passé le cap où il y a eu plus de lits touristiques. Les lits touristiques ont dépassé le nombre des habitants permanents de Venise. Hein, 49 600 contre 40... On est aux alentours de 50 000 dans les deux cas. Voilà. Donc, si déjà les autorités vénitiennes se résolvaient à réduire la transformation de ce parc de logements vénitiens qui va croissant en location touristique temporaire, on n'irait pas encore à augmenter le stock pour permettre à des touristes de vivre sur place à Venise, considérant qu'il y a déjà un stock suffisant de lits touristiques pour les accueillir. Quant au flux, à ce moment-là, c'est aux autorités compétentes de la ville de gérer ces flux avec tous les transporteurs, par exemple avec les croisiéristes, avec les avionneurs aussi, pourquoi pas, les compagnies aériennes. Une grosse partie des excursionnistes qui sont pointés arrivent par le train. Il y a des manières de réguler si on veut, mais le plus efficace, c'est quand même de ne pas augmenter indéfiniment la capacité d'accueil de Venise.
Très rapidement, il nous reste une trentaine de secondes, Rémi Knafou. En conclusion, est-ce qu'on peut partir cet été si on veut passer de bonnes vacances tout en polluant le moins possible l'environnement ?
Ah, on peut certainement. Il y a beaucoup de territoires, y compris en France en premier lieu, de proximité, où on peut passer des vacances tout à fait apaisantes et sans polluer excessivement.
Merci beaucoup, Rémi Knafou, d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités en géographie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste du tourisme. Je rappelle votre ouvrage « Réinventer vraiment le tourisme ». En finir avec les hypocrisies du tourisme durable, c'est aux éditions du Faubourg. Dans un instant, le débat du jour avec Romain Ozoui. Faut-il hacker les hackers ? Ce sera le sujet du jour.